chemin de vie. Amis auditeurs, nous vous souhaitons un temps agréable à l'écoute de la rubrique Chemin de vie. Pendant 30 minutes, nous serons ensemble avec Jacques Yosti pour lire et commenter la Bible. Au micro, Heidi.
Ainsi que Jean, et pour nous piloter, Daniel est à la technique. Heidi, veux-tu nous dire de quoi notre infatigable chroniqueur va nous parler aujourd'hui ?
Dans le chapitre 2 de la seconde épître, l'apôtre Pierre s'insurge contre les faux docteurs. En langage moderne, nous dirions contre les charlatans. Et malheureusement, ce phénomène n'est pas nouveau. De tout temps, de nombreux imposteurs sont introduits dans le milieu religieux pour séduire les chrétiens.
En attendant les éclaircissements de notre chroniqueur Jacques Yosti, Ingrid chante ce titre, Au-delà de nos vies.
Loin des plaines de la terre, mais vois la peine de nos pères et mères. Tout se perd, les foules sont aimées. On espère devant l'éternel.
Quand j'étais en primaire, en plus des récitations, il fallait aussi que j'apprenne par cœur des tas de dates historiques. Je me souviens de Marignane, 1515, par contre on ne nous a rien dit concernant 313, et pourtant c'est une date importante, mais seulement dans le contexte du christianisme. En effet, c'est en cette année que l'empereur Constantin promulgua l'édit de Milan, qui donna à l'Église le droit d'intervenir dans les affaires de ce bas monde en propageant légalement et ouvertement la foi en Jésus-Christ. Cependant, cette nouvelle liberté fut une épée à double tranchant, car en même temps, les valeurs morales et religieuses du IVe siècle s'introduisirent avec la force d'un ouragan dans les assemblées chrétiennes, diluant considérablement leur message originel. Cela dura 12 siècles jusqu'à l'ère de la Réforme. Pourtant, au dire de l'apôtre Pierre, en particulier dans le chapitre 2 de sa seconde épître, il est évident que les fausses valeurs du paganisme allaient commencer à envahir l'Église de Jésus-Christ bien avant que Constantin n'apparaisse sur la scène politique mondiale. Dans le premier chapitre, Pierre a défendu la légitimité de son autorité de façon à la fois magistrale et poignante. Sachant sa mort prochaine, il veut tout mettre en œuvre et se donner tout entier à la tâche pour qu'après avoir quitté son corps, qu'il appelle une tente, les croyants auxquels il s'adresse restent vigilants et fermes dans leur foi. Conformément à l'enseignement de la loi de Moïse, Pierre cherche à prouver sa crédibilité en s'appuyant sur un double témoignage, celui de la transfiguration, un événement inoubliable auquel il a assisté, et celui des prophètes de l'Ancien Testament. Sur la montagne, en compagnie des apôtres Jacques et Jean, Pierre a vu le Christ glorifié et entendu le Père attester la divinité de son Fils. Deuxièmement, il rappelle que les prophètes et tous les auteurs de l'Ancien Testament sont dignes de foi. Ils ont transmis un message et un enseignement sur lesquels on peut s'appuyer. Si Pierre a choisi de rapporter la transfiguration plutôt que le baptême de Jésus, c'est parce qu'elle met déjà l'accent sur la glorification du Seigneur, sa résurrection et le jugement à venir. Doctrine que rejettent les enseignants de mensonges qui commençaient à s'introduire dans les assemblées chrétiennes. Dans le récit que font les évangiles de la transfiguration, le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. » Mais quand Pierre rapporte cet événement, il omet l'impératif « écoutez-le » parce que le Fils étant retourné auprès du Père, c'est désormais aux apôtres qu'il incombe de transmettre les paroles du Christ et ce sont eux qui doivent être écoutés. Je commence à lire le second chapitre de la deuxième épître de Pierre. Autrefois, il y a eu des pseudo-prophètes, des prophètes de mensonges, parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces pseudo-enseignants, des enseignants de mensonges, introduiront sournoisement parmi vous des hérésies qui détruisent. Ils renieront le maître qui les a rachetés, et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Verset 1. Pierre avertit les croyants qu'ils doivent rester vigilants afin de pouvoir distinguer le véritable enseignement du faux. Comme je l'ai déjà dit, la description frappante et pénétrante qu'il va faire des hérétiques peut se comparer à celle de Jude. Cependant, c'est Pierre qui a écrit le premier parce qu'il emploie le futur. Ce qu'il décrit arrivera surtout après son départ de cette terre. Jude, par contre, utilise un temps de verbe qui montre que les apostats sont déjà bien implantés dans les assemblées chrétiennes. Le fait que la seconde épître de Pierre et celle de Jude se recoupent a conduit certains commentateurs vindicatifs à conclure que l'un avait copié sur l'autre. Ils choisissent d'ignorer que les redondances sont très fréquentes dans les textes sacrés parce que chaque fois que Dieu estime un enseignement important, il le répète deux ou plusieurs fois. C'est un peu comme les « en vérité » de Jésus que rapporte l'apôtre Jean. Un seul « en vérité » aurait amplement suffi, mais s'il y en a deux, j'ai intérêt à tendre l'oreille et à prendre note. Aux prophètes de mensonges de l'Ancienne Alliance correspondent les enseignants de mensonges du Nouveau. Plus loin, Pierre va évoquer un sombre personnage nommé Balaam qu'il présente comme l'exemple type et le chef de file des faux prophètes de l'Ancien Testament. Pierre ne précise pas à quelle école se rattachaient les imposteurs qui commençaient tout juste à répandre leur venin parmi les croyants. On sait par contre qu'environ 3 décennies plus tard, dans les lettres aux 7 églises d'Asie mineure, l'apôtre Jean parle d'un groupe qui s'appelle les Nicolaïtes. Ils étaient dans les villes de Pergame et d'Éphèse qui se trouvent à l'ouest de l'Asie mineure au bord de la mer Égée et ils suivaient la doctrine de Balaam. Parmi eux, certains allaient jusqu'à se proclamer apôtres. Dans la ville de Thyatire, une femme, se disant prophétesse, enseignait et séduisait des croyants pour qu'ils se livrent à l'immoralité. De nombreux passages du Nouveau Testament avertissent sans cesse les croyants. À toutes les époques, ils doivent être sur leur garde contre les attaques de Satan, leur ennemi juré qui utilise tous les moyens à sa disposition pour enrayer l'œuvre de Dieu sur terre. Son rayon d'action est le monde entier et la panoplie de ses armes est très variée, mais il est surtout spécialisé dans les imitations frauduleuses et les activités trompeuses. Sournois par définition, il utilise des personnes ayant une pseudo-foi qui prétendent croire. Ces imposteurs, dit l'apôtre Paul, sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière ? Fin de citation. La stratégie de ces loups en vêtements de brebis est de s'infiltrer incognito dans le vrai troupeau de Dieu puis de prendre de l'importance afin d'être écouté. Ensuite, et sous prétexte d'enseigner la vérité, ils colportent leur doctrine démoniaque. Ce qui rend ces imposteurs particulièrement dangereux est qu'ils enrobent leurs mensonges dans une part de vérité pour les rendre acceptables aux yeux des brebis qu'ils cherchent à dévorer. S'ils annonçaient une doctrine qui était fausse à 100%, ils passeraient pour des charlatans et ne tromperaient pratiquement personne. Mais c'est rarement ainsi qu'ils se présentent. L'apôtre Paul a mis en garde les responsables de l'église d'Éphèse en leur disant « Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. » Si certains de ces loups cherchent délibérément à tromper, d'autres ont eux-mêmes été les victimes d'une contrefaçon. Mais en définitive, ça ne change pas le résultat final, car même s'ils colportent un mensonge en toute bonne conscience, ils induisent quand même les autres en erreur et cette gangrène se propage. On peut être le porteur d'un virus très dangereux sans le savoir, mais ça ne diminue en rien sa nocivité. Sous l'Ancienne Alliance, et dans presque tous les cas, les faux prophètes ne venaient pas des nations païennes environnantes, mais étaient des Israélites. De même, sous la Nouvelle Alliance, les faux docteurs et leurs hérésies proviennent du sein de la chrétienté, ce qui leur donne un air de légitimité suffisant pour induire en erreur ceux qui n'ont pas une foi personnelle en Jésus-Christ et parfois même de vrais croyants. Voilà pourquoi, depuis le commencement de la révélation, les Écritures mettent les chrétiens sincères en garde contre les faussaires religieux afin qu'ils puissent les repérer et ne pas se laisser berner par ces oiseaux de malheur. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu a dit à son peuple « Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous, ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux ou vous annoncera un prodige. Si le signe ou le prodige annoncé s'accomplit, et s'il vous dit « Allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte », vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel, votre Dieu, se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de tout votre être. C'est à l'Éternel, votre Dieu, que vous rendrez un culte. C'est lui que vous révérerez. Vous obéirez à ses commandements. Vous l'écouterez. C'est à lui seul que vous rendrez un culte et c'est à lui seul que vous vous attacherez. Quant à ce prophète ou ce visionnaire, il sera puni de mort pour avoir prêché la désobéissance à l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte et vous a libéré de l'esclavage, car il aura voulu vous entraîner hors du chemin que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné de suivre. Ainsi vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. » Fin de citation. Oui, mais les Israélites n'ont pas obéi à cette règle et le résultat fut catastrophique pour leur nation. Le royaume des 10 tribus du Nord n'a pas eu un seul roi fidèle à l'Éternel. Tous furent idolâtres et s'entouraient de faux prophètes. Un exemple type de ce phénomène est ce qui se passait sous le roi Akab. Un jour, il décida d'attaquer les Syriens pour leur reprendre une ville qu'ils avaient conquise. Mais avant de se lancer, il demanda le concours de Josaphat, roi de Juda, qui voulait bien soutenir cet effort de guerre, à condition de consulter d'abord l'Éternel afin de s'assurer qu'il leur serait favorable. Le roi d'Israël acquiesce et le texte dit qu'il rassembla les prophètes qui étaient environ 400 et leur demanda « Dois-je aller combattre pour reprendre Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Ils répondirent « Vas-y, le Seigneur la livrera au roi !» Mais Josaphat insista « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël lui répondit « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste car il ne m'annonce jamais rien de bon. Il ne m'annonce que du mal. Il s'agit de Miché. » Fin de citation. Mais comme Akab avait besoin du soutien de Josaphat, il fait appeler Miché de sa prison. Après quelques jeux de scène, ce dernier donne son verdict. « J'ai vu tous les Israélites disséminés sur les montagnes. Ils ressemblaient à des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit « Ces gens n'ont plus de souverain, que chacun d'eux retourne tranquillement chez soi. » Le roi d'Israël dit alors à Josaphat « Je te l'avais bien dit, cet homme-là ne me prophétise jamais rien de bon, c'est toujours du mal. » Mais Miché continua. « L'Éternel a fait qu'un esprit de mensonge inspira tous les prophètes ici présents, car l'Éternel a résolu ta perte. » Fin de citation. Il est bien regrettable que Akab n'ait pas écouté la parole de Miché parce que, comme prédit, il a péri dans ce combat. Quelqu'un a dit et bien dit que les sectes sont comme des champignons qui poussent sur la pourriture, celle de l'Église. C'est en grande partie vrai, ce qui fait qu'il y aura toujours des imposteurs religieux, et cela jusqu'à la fin des temps. Concernant son retour, Jésus a dit à ses disciples « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. » Pierre dit aussi que ces enseignants de mensonges introduiront sournoisement des hérésies qui détruisent. « Introduire sournoisement » est un seul mot en grec et signifie « s'infiltrer »,« s'introduire furtivement ». Le mot pour hérésie n'a en apparence rien de bien méchant puisqu'au 1er siècle, il voulait simplement dire « école de philosophie ». Mais les auteurs du Nouveau Testament se sont servis de ce mot pour décrire une opinion qui se substitue à la vérité et qui conduit à la formation de sectes opposées à Jésus-Christ. L'enseignement hérétique des imposteurs religieux est donc bien une contrefaçon mortelle. Les hérésies fondées sur de fausses doctrines ne portent jamais sur des points de détail, mais sur le maître lui-même qu'il renie à l'exemple de Judas. À l'époque de Jésus, les pharisiens et dans une moindre mesure les sadducéens étaient des sectes dangereuses qui prônaient une fausse religion. Ces religieux, qui étaient aussi les chefs du peuple, répandaient un enseignement qui venait du malin parce qu'il éloignait les gens de Jésus et, en plus, les conduisait à la ruine éternelle. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient rejeté le Christ et comploté son assassinat. On fait généralement porter le chapeau de ce meurtre aux Romains, mais les chefs religieux étaient les premiers coupables. Se faisant passer pour de vrais bergers, Pierre dit que les imposteurs religieux introduiront des hérésies qui détruisent. Le mot ainsi traduit est un nom qui signifie une ruine totale. En d'autres mots, ces faux frères donneront un enseignement qui aura tant pour eux-mêmes que pour leurs adeptes les conséquences les plus désastreuses. Ils connaîtront la ruine spirituelle et la perdition. On peut voir que ce mot grec a le sens de condamnation éternelle par le fait qu'il est employé dans ce sens dans le Nouveau Testament. Il sert à décrire ceux qui passent par la porte large dont parle Jésus, il sert à évoquer le sort qui est réservé à Judas, et il atteste l'état de perdition qui est réservé aux non-croyants. En plus, il décrit le jugement de l'Antichrist ainsi que celui des impies un peu plus loin dans cette épître. Les sectes donnent toujours un enseignement contraire aux Écritures dans bien des domaines, mais surtout en ce qui concerne le salut, ce qui entraîne le châtiment éternel de leurs adeptes. Que ce soit la scientologie qui de temps en temps est à la une des journaux à cause de l'acteur Tom Cruise qui en fait partie, ou une autre aberration issue du christianisme, ou l'une des grandes religions mondiales traditionnelles, les faux systèmes de croyance ont toujours eu le vent en poupe parce que les incrédules, ceux qui n'acceptent pas de faire confiance à Jésus, deviennent crédules, prêts à croire n'importe quoi et n'importe qui. Et s'ils n'adhèrent pas à un système religieux reconnu comme tel, ils donneront leur suffrage à quelque chose d'autre. Ils feront leur idole du sport ou de la science, et surtout de la théorie de l'évolution, afin de trouver un sens à leur misérable existence. En parlant des faux frères, Pierre soulève un point d'interrogation quand il dit qu'ils renieront le maître qui les a rachetés. Comment ces imposteurs religieux qui étaient parmi les croyants et que le Seigneur avait rachetés pouvaient-ils connaître une ruine spirituelle et la perdition? Comme il est exact que le mot pour racheter veut bien dire racheter rien d'autre, ces paroles de Pierre font les choux gras de ceux qui pensent qu'un croyant authentique peut perdre le salut. Mais un tel point de vue contredit beaucoup d'autres passages des Écritures, ce qui le rend tout à fait inacceptable. En réalité, Pierre dit que Jésus a payé la dette des imposteurs sur le calvaire comme il l'a fait pour tous les êtres humains, mais cette rédemption n'est efficace et actualisée dans la vie d'un individu que s'il place sa confiance en Jésus. Le paiement réalisé par le Seigneur sur la croix est suffisant et agréé par Dieu. Seulement, les faux frères dont parle Pierre ne se l'ont pas appliqué, ils ne l'ont pas accepté. Ils ont entendu et compris le message de la bonne nouvelle, mais en ont fait fi. Ils n'ont donc pas la foi qui sauve. Ce passage n'enseigne pas qu'il est possible de perdre le salut. Par contre, il fournit un argument solide en faveur d'une rédemption illimitée, c'est-à-dire que Jésus est mort pour tous les hommes, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais cela n'est vrai qu'au niveau terrestre, qu'il faut soigneusement différencier du niveau céleste. En effet, dans sa souveraineté et avant la fondation du monde, Dieu a décrété qui seront les élus, c'est-à-dire ceux à qui sera appliquée l'expiation accomplie par Jésus. À ce niveau de logique, celui dans les cieux, la rédemption est limitée aux élus, mais sur la terre, et comme je l'ai déjà souligné, elle est illimitée. Si vous connaissez la théorie mathématique des types logiques, vous comprendrez ce que je dis. Sinon, faites-moi confiance.
La nuit s'achève, déjà les rêves sont oubliés. Des illusions sans déception restent gravées. Personne ne même écouter. retiens plus tes pleurs. Dépose ta douleur. Toute ta douleur,
seul tu le peux.
Effacer, tel est le titre de la chanson que vient d'interpréter Ethan.
Amis auditeurs, nous sommes déjà vendredi. Mais rassurez-vous, nous serons à nouveau ensemble sur votre radio préférée lundi prochain à la même heure pour une nouvelle rubrique de Chemin de vie.
Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette rubrique ainsi que les précédentes sur notre site internet chemindevie.info avec chemins au pluriel et le tout en un seul mot, chemindevie.info.
Nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone pendant les heures de bureau qui est le suivant. 0820 200 628. C'est un numéro Indigo. 0820 200 628. Vous pourrez y demander une copie de ce texte ou une Bible sans aucun engagement de votre part.
Amis auditeurs, nous vous disons bon week-end.
À lundi.